RMC.
After Saint-Étienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de Sylvain Marchal et d'Alex Di Rocco, bienvenue dans le podcast After Saint-Etienne. Comme toutes les semaines, 15 minutes de débat consacré à l'actu des Verts, avec aujourd'hui le plus vert d'entre nous, Emmanuel Petit.
Salut,
ça va en forme.
Ouais, nickel.
Jeune.
Ouais.
Il est vert. Salut Manu.
Je suis mûr.
Joss Randall est également avec nous depuis Saint-Etienne, bien sûr, du site peuple-vert.fr. Salut Joss.
Salut Gilbert, salut Manu, salut à tous.
Alors, une petite évaluation comme de coutume après la victoire face à Nîmes, et puis deux débats. Puel a-t-il raison de déclasser les peignoirs claquettes? C'est lui-même qui les a baptisés comme ça, hein. c'est une espèce de sorte de baron à Saint-Etienne. Et puis, faut-il déjà oublier cette saison pour préparer la prochaine? Vraisemblablement, ça se murmure à Saint-Etienne. Quel est votre avis à vous? Quel est notre avis? C'est tout de suite dans le podcast After Saint-Etienne. Alors, un taulier après la victoire face à Nîmes. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que tout le monde va dire Cazeri.
Bah, évidemment. Hein.
Oui, moi aussi, je vais dire Cazeri, je ne vais pas être très original.
Bon, en même temps, là, ça se justifie, il n'y a pas de... Puis, on sort de pas mal de déceptions le concernant, donc quand il met un doublé et qu'il est bon, on le dit, voilà.
Ouais, justement, moi, c'est je sors un peu juste du doublé, c'est plus pour l'attitude, en fait. L'attitude qu'il a, et pas uniquement sur le match d'hier, on l'a déjà vu en coupe. Il semble, il est revenu complètement décoigné déjà, ça se voit à son visage qui est beaucoup plus fin. Et puis, il a une attitude un peu différente sur le terrain, il fait beaucoup d'efforts. Mmh. C'est Puel qui a dit qu'il avait de nouveau un peu un profil de leader sur le terrain. Alors leader, c'est pas lui qui replace tout le monde et qui gueule, mais par les efforts qu'il fait, je pense qu'il montre la voie. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle du moment. Voilà.
Bon, à le pauvre, il y a même des montages qui circulent. Le montre en torse nu dans les vestiaires alors que c'est pas lui, c'est quand même poursuivi par moi je sais pas, il y a des sportifs de haut niveau qui sont aussi bien dans leur graisse, hein, et qui sont performants, hein.
Ah oui, t'en connais beaucoup toi.
Boris Dio par exemple, toute sa carrière le mec il avait un petit surpoids, ça l'empêchait pas d'être bon. Et alors,
c'est plus dur aujourd'hui quand même, hein. Ça a un peu changé.
Alors vous allez me dire le basket c'est pas le foot.
Non, t'es en train de me dire que c'est les sessions qui confirment la règle en fait.
Bah, toi, t'as jamais vu des joueurs de foot là qui...
J'en ai vu qui étaient un petit peu gras du bide, et je peux te garantir et je t'assure qu'ils n'ont pas fait une grande carrière.
Il y avait Beto Marsico, mais à l'époque, ça marchait, quoi. Voilà,
ils étaient très, très connus, Domino Pizza du coin.
Platini, il n'était pas un peu gras du bide?
Quand il était au top de sa carrière, il était sec de ses chèques. À la fin, il était sec de ses chèques à la Juve.
C'est là où il faut quand même regarder que le foot a quand même changé dans sa dimension physique. Il y en a plus beaucoup, et on le voit aussi au rugby. Enfin, moi, je me rappelle au rugby à l'époque des papas en board, c'était plein de petits gros qui poussent. Maintenant, même ceux qui poussent en mêlée, c'est des athlètes, quoi. C'est des baraques. Ça a quand même beaucoup changé, donc on peut pas comparer des époques. Bon. Maintenant, pour ce que tu dis, il y a effectivement des morphologies. Il y en a qui vivent mieux avec cette morphologie. Mais je pense que Cazeri ne fait pas partie de ceux qui ne sont pas pénalisés par leur surpoids. Il l'est à l'évidence. Ça se voit aujourd'hui où il semble plus fit. Il va plus vite, il fait plus d'efforts, ça dure plus longtemps. Voilà, quoi. C'est juste ça. Hein.
Voilà.
Et puis bizarrement, il retrouve le chemin défilé.
Exactement. Pour finir sur ce débat, regardez le popotin d'Eden Hazard, qui ne l'a jamais empêché de protéger son ballon et d'aller vite.
On en a un célèbre ici de popotin, Jérôme Bretagne. Il avait un cul, il ne pouvait pas rentrer à la porte d'Aix. Ça n'a pas empêché de faire une carrière.
Et ben voilà.
Gilbert, rappelle-toi ce que disait Fred Hermel en début de saison sur ce, justement, il est arrivé en surpoids au Real et tout le monde, au début, a mis ses difficultés à rentrer dans le truc sur le compte de son poids. Donc même lui n'y échappe pas particulièrement quand même.
Bon, voilà pour le taulier, un boulet après le match.
Tout le côté droit de Saint-Té, moi.
Ah, carrément.
Ouais.
Donc ouais. Honora de Bucci, en l'occurrence. Voilà.
Ouais, moi je rajoute Nordin. Alors je vais encore me faire insulter sur Twitter parce que j'ai pris un paquet là ces derniers jours, mais je focus
c'est
un
bon
peu
signe,
sur
ça.
Nordin parce que alors évidemment il vient du club formé machin tout ça, mais il plafonne et à mon sens il a pas les qualités pour dépasser ce cap. manque de plein de choses, ce garçon. Il a plein de bonne volonté, mais il manque de plein de choses. Il a encore passé... il provoque le pénalty. Heureusement qu'il a fait un truc quand même dans le match, mais il court le nez dans la pelouse, quoi. Il cherche les coccinelles. Donc, partant de là, c'est vachement compliqué de progresser. Mmh. Et moi, je suis un peu déçu, en fait, parce qu'il y a un an et demi de ça, je pensais que ce mec-là allait éclater et que sportivement, il allait nous rapporter, puis après, il allait nous rapporter financièrement, et je crois que ça sera
ni de l'un ni de l'autre. Depuis que Biarritz est parti, t'es pas en forme. Je le sens bien, Joss. Je vois bien que t'es...
Non, mais je suis juste un peu résigné, j'en parlerai au point 3 tout à l'heure, mais non, je suis plutôt positif pour l'avenir, mais pas l'avenir à court terme.
Voilà. Okay. On enchaîne. Manu, Joss, Claude Puel a inventé le concept des peignoirs claquettes, donc ces fameux joueurs, on va dire, barons dans le vestiaire de Saint-Etienne, et vraisemblablement, il aime ni les peignoirs ni les claquettes. Claude Puel, donc il veut rebattre un petit peu les cartes, et il l'a fait avec Kolo Dziesak récemment de façon assez musclée. Est-ce qu'il a raison de déclasser les peignoirs claquettes ?
Évidemment, quand les peignoirs claquettes, justement, ne montrent pas l'exemple, à un moment donné, il faut leur enlever certains privilèges. Et les mettre devant leurs responsabilités.
Les peignoirs et les claquettes, quoi.
Voilà. Tu marches à pieds nus, maintenant. Et ouais, t'es sûr avec une serviette.
C'est une image qui parle très bien, quand même. Hein. On a bien compris ce qu'il voulait dire. Et Kolo Dziesak, dans la passe d'armes qu'il a eue avec Puel, Joss, la semaine dernière, on voit bien que voilà, il y a une nouvelle donne, quoi.
Absolument. Mais alors moi, pour répondre à ta question, je réponds oui. Il prêche un convaincu, Puel. Ça fait longtemps que je dis qu'une des sources du mal, c'est justement cet état de fait qui s'est installé avec, on appelle ça le sénateur ou des barons, mais c'est tout ce qui va derrière, c'est une attitude générale, c'est un entraînement qui n'est pas ce qui devrait être. Et puis moi, je rajoute le fait que c'est tous ces gars-là qui ont été appelés un peu à la rescousse sous l'époque Gasset pour sauver la maison qui brûlait, et ils l'ont fait d'ailleurs. Se sont installés, sont parmi les plus hauts salaires du club, donc c'est aussi pénalisant pour l'investissement. Donc oui, je pense qu'il a raison de le faire. Après, sur la forme, je pense que ça... J'ai trouvé ça un peu too much, l'écarissage public de Kolo Dziesak en conf de presse. Ça faisait un peu règlement de compte. Je pense qu'il faut qu'il fasse attention à ça, parce que dans un vestiaire, enfin, c'est Manu qui pourra nous en parler, il peut quand même y avoir une sorte d'élan de solidarité, parce que c'est quand même le mec qui voit tous les jours, certains sont sûrement potes avec lui, qui pourrait lui valoir une rupture avec le groupe. En même temps, je crois que Claude Puel, il s'en fout un peu de ça, et moi je crois que c'est une vraie stratégie, parce qu'il prépare la suite, et il annonce un peu le cadre, et après, il y a ceux à qui ça plaira et qui s'y feront, puis ceux à qui ça plaira pas et qui partiront, quoi.
Exactement. On va en parler dans quelques instants, ça. Manu, forcément, t'as connu ça plusieurs reprises dans ta carrière, des situations où t'as les mecs installés qui sont plus au niveau ou bien qui sont plus dans l'état d'esprit, quoi.
Bah, ça arrive très souvent dans beaucoup d'équipes chaque saison, donc c'est justement le rôle de l'entraîneur dans son management, justement de faire en sorte que ces joueurs-là ne s'égarent pas trop non plus et de les mettre à chaque fois devant la responsabilité.
Sauf qu'à Saint-Etienne, avant, tu avais des gars, genre Gasset ou les coachs d'avant au printemps, qui avaient tendance quand même à cirer les claquettes des mecs à peignoir.
C'est le gros défaut de beaucoup d'entraîneurs dans le football moderne aujourd'hui, c'est qu'ils confondent affectif et le respect mutuel avec le sens des responsabilités. Il y en a beaucoup qui sont trop dans l'affectif en disant « ouais, je suis copain », mais en même temps, ils oublient que c'est l'entraîneur, donc il doit y avoir une distance. Donc, pour moi, l'exemple, c'est Klopp, voilà. À la fois extrêmement humain, mais il a une main d'acier, quoi. Il ne faut pas déconner avec lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est donnant-donnant. Tu acceptes les règles, c'est moi qui les mets en place.
Ouais, c'est un peu retort, excuse-moi, mais Klopp, tu vois, effectivement, comme tu le dis, main d'acier, mais il est capable de débouler chez un joueur à 23h pour aller discuter avec lui, faire un peu de social.
Parce qu'il mise sur l'humain qui est très, très présent dans son relationnel avec ses joueurs, mais en même temps, il sait très, très bien, il a présenté le cahier des charges aux joueurs, les responsabilités qui les incombent, en disant, voilà, vous signez en bas de la page, c'est un contrat mutuel tacite entre nous. Si vous ne le respectez pas, vous allez me trouver devant votre porte. C'est aussi simple que ça.
Bon, et puis évidemment, ça peut signifier la fin de l'aventure à Saint-Etienne pour des gars, je pense à Mvilla par exemple, qui semble être en première ligne dans cette histoire. Lui, c'était double peignoir vraisemblablement.
Par expérience et de par mon expérience, lorsque ça arrive dans un vestiaire que certains cadres sont touchés, il suffit qu'il y ait un cadre et qu'on commence à changer d'état d'esprit pour que d'un seul coup, ça ait fait un effet boule de neige sur d'autres joueurs. Voilà, aussi simple que ça.
Bon, bah pourquoi pas.
Espérons que ça sera le cas avec Kadri. Hein. Espérons que ça donnera des idées aux autres.
On enchaîne, on va parler d'ores et déjà de la saison prochaine parce que, bah oui, Claude Puel en parle. Et oui, Claude Puel, qui semble déjà préparer la saison prochaine, c'est ses habitudes de fonctionnement. Hein, un peu, il avait fait pareil à Leicester. Voilà, il essaie d'avoir comme ça une sorte de longueur d'avance à chaque fois en termes de recrutement, de construction de l'équipe qui vient après. Vu le classement actuel de Saint-Etienne, est-ce qu'il faut d'ores et déjà se dire, attends, on est fin janvier, ok, cette année, on sait que c'est une saison un peu naze, transition.
Pourquoi tu dis ça?
Ben je pose la question justement.
Alors regarde déjà le classement. Ouais.
Préparons déjà la saison prochaine.
Ils sont en T-pénultième, je sais pas quoi, avant. Enfin,
quoi,
ils sont
tu dis quoi? Tu le dis 16e. Pas, tu le maintiens quand même.
Non, je sais pas ce que je suis en train de dire. À la fois, il faut lutter pour pas descendre, mais en même temps, tu es à 6 points d'une place européenne.
14e, Saint-Etienne, je le rappelle.
Oui, mais tu es à 6 points d'une place européenne. C'est 2 matchs gagnés. Quand tu connais justement
toi, tu dis carrément,
l'incapacité de la majorité des clubs de Ligue 1 à faire des séries, donc tout est jouable pour moi.
J'aimerais tellement être aussi optimiste que Manu. Oui, il a raison, Manu, sur le fait que cette année, la Ligue 1 est très bizarre. Hein. Tu gagnes 3 matchs et t'es en haut, tu en perds 3, t'es en bas. Après, il y a aussi ce qui se passe sur le terrain. Et moi, ce que j'ai vu samedi ne me rassure pas du tout. Je regarde beaucoup de matchs de foot. Je pense qu'il y a quand même un paquet d'équipes qui jouent quand même mieux que le Saint-Etienne. Alors, bon, peut-être qu'avec le retour de pas mal de gens, ça va aller mieux. Mais pour l'instant, je ne suis vraiment pas convaincu. Donc, j'ai peur, et j'aimerais vraiment, vraiment pouvoir dire le contraire, mais j'ai peur qu'effectivement, ça soit un peu roue libre jusqu'à la fin de la saison, ou puis elle soit déjà dans la préparation de la suivante, ce qui va nous valoir une fin de saison longue, comme une envie de pisser dans un enterrement. Et c'est triste, mais j'ai peur qu'il faille se préparer à ça. En même temps, si c'est la condition pour avoir un vrai projet qui démarre bien l'été prochain avec un groupe choisi par Puel. D'ailleurs, je vous recommande, j'ai vu passer des extraits de l'interview qu'il a donné à France Football, c'est super intéressant. Et j'espère qu'il ira au bout des idées qu'il développe là, puisqu'il parle des profils de joueurs qu'il aimerait former, qu'il aimerait développer. Et c'est un peu à l'opposé de l'image qu'on a de Puel, c'est-à-dire plutôt des joueurs techniques, pas du tout des joueurs physiques bourrins. Et que c'est avec ça qu'il veut essayer de jouer un rôle et de lutter avec des moyens différents contre des clubs plus dimensionnés.
Moi, j'ai l'impression qu'il est revenu différent d'Angleterre.
Ouais, ça a l'air. Alors après, ça se voit pas forcément dans son coaching à l'heure actuelle, parce qu'il a quand même tendance, il l'a encore fait samedi soir. On était à 2-1 contre Nîmes à domicile, Nîmes qui est 19e, à un quart d'heure de la fin, il sort quand même encore un offensif pour renforcer le milieu de terrain. Et ça, il le fait quasiment à tous les matchs. C'est pas un signal que j'attends d'un joueur, d'un coach qui dit être porté plutôt vers l'offensive, vers un projet avec le ballon, quoi. Mais bon, laissons-lui le crédit de ce qu'il a annoncé. Moi, c'est triste à dire, j'ai un peu les boules de me dire que cette saison, on va naviguer ventre mou, mais j'ai peur que ce soit notre destin. Mais je répète, si c'est le prix à payer pour sortir de ces années un peu mercenaires et repartir sur quelque chose qui peut nous emmener un peu plus loin, Claude Puel, dans son interview, parle de son rêve de jouer la Ligue des Champions dans 5 ans avec la Saint-Etienne.
Oula.
Bon, il voit loin. C'est utopique, hein. Ouais, il voit loin, mais ça fait du bien quand même de se dire, putain, il y a un mec qui essaie d'avoir une vision, quoi. Voilà.
C'est pas faux.
Mais j'en ai une autre. Donc, Saint-Etienne, champion d'Europe aussi dans 6 ans, non?
Ouais, 6 ou 7 du coup.
Non, mais, Manu, attends, toi tu connais bien Claude Puel parce que bon, t'as joué avec, tu l'as côtoyé pendant des années à Monaco. Si tu devais le qualifier, là il t'étonne par exemple dans sa vision, dans sa façon de faire, ou tu retrouves le Puel que tu connaissais déjà il y a 20 ans finalement.
Même si c'est amélioré dans son coaching, dans son management, et évidemment il a pris la bouteille, mais son expérience aussi outre-mer, elle a aussi amené notre vision du football et aussi du management au quotidien, parce que les clubs anglais ne s'entraînent pas et ne vivent pas de la même manière que les clubs français. Mais en même temps, moi je reste persuadé que Claude n'a pas l'envergure et la personnalité pour entraîner un gros club. Parce que si demain tu le mets dans un vestiaire avec des joueurs, avec un pédigré et un CV long comme le bras et qui a vécu beaucoup d'expérience...
Donc au-dessus de Saint-Etienne en l'occurrence.
Bon. Voilà, exactement. Avec des joueurs confirmés sur la scène internationale, tu vois. Je pense qu'il aurait beaucoup, beaucoup de problèmes parce que les idées, la personnalité et la mentalité qu'il a au quotidien peut se heurter à une certaine rigidité justement de sa part vis-à-vis de certains privilèges que peuvent avoir certains joueurs quand ils évoluent dans l'élite du football mondial.
Messieurs, merci beaucoup. Joss, on te retrouve sur peuple-vert.fr bien sûr, comme toutes les semaines. Manu,
merci.
Merci. Et le prochain podcast After Saint-Etienne, ce sera dès la semaine prochaine, évidemment. Salut à tous.
À bientôt.
RMC.
After Saint-Etienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.